BFM Business présente Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Bonjour et bienvenue dans Tech & Co Business sur BFM Business. On est ensemble pendant une heure. Si vous avez manqué un moment, vous nous retrouvez en replay, en podcast. Au sommaire aujourd'hui, beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle, notamment cette plateforme Ariane qui a été montée par la société des grands projets. Voilà, pour tous les grands projets de mobilité. Vous allez voir, c'est assez intéressant comment tous les agents de la société des grands projets utilisent cette plateforme. On enchaînera avec le nouveau un livre Innovation au carré par Paul-François Fournier, que vous connaissez. C'est le numéro 2 de BPI France. Eh bien, il s'interroge sur comment les startups doivent mieux travailler avec les entreprises, surtout comment les grandes entreprises doivent revoir un peu leur système de fonctionnement avec ces startups, avec leur département de R&D. Première partie d'émission. Deuxième partie d'émission, mais on enchaînera avec l'innovation, l'IA, un livre aussi, l'IA sera ce que tu en feras, avec deux experts qui vont nous en parler. Et puis, on terminera avec un débat très intéressant. Reste avec nous, on va voir est-ce que les développeurs peuvent disparaître? Alors, la réponse est non, mais on va essayer de comprendre comment ils doivent se transformer. Voilà, on est ensemble pendant une heure pour discuter de tout cela. L'intelligence artificielle, ça va être notre fil rouge pendant une heure. Reste avec nous sur BFM Business, Tech & Co Business. C'est parti.
Tech & Co Business, l'invité.
Voilà, et on va parler intelligence artificielle avec notre invité, Frédéric Bridiot. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes membre du directoire de la Société des Grands Projets. On va savoir ce que c'est cette structure dédiée aux grands projets de mobilité, notamment en charge des finances, des achats, des ressources humaines, des systèmes d'information, du juridique et de l'audit. Alors on va parler d'IA parce que vous avez mis en place une plateforme justement pour tous vos collaborateurs. Mais la première question, juste nous dire en quelques mots, nous rappeler la mission de la Société des Grands Projets.
Bien sûr. Alors, la Société des Grands Projets, c'est une structure publique qui, comme vous le dites, est dédiée au pilotage de la réalisation de grands projets d'infrastructures de transport collectif. Aujourd'hui, notre projet majeur qu'on est en train de conduire en Île-de-France, c'est la réalisation de 4 nouvelles lignes de métro automatiques qui vont permettre de doubler la longueur du métro parisien dans les 6 années qui viennent. Et puis, par ailleurs, on accompagne des collectivités qui réfléchissent pour constituer des chocs d'offres dans l'ensemble du territoire national.
Voilà, donc ça, c'est pour votre métier, évidemment. Quand on commence à descendre un peu dans les coulisses de la Société des Grands Projets, évidemment, on parle d'intelligence artificielle. Et vous avez lancé un Ariane, c'est une plateforme d'IA. Alors, comme beaucoup de grandes entreprises qui lancent leurs propres infrastructures GPT, enfin voilà, on a des banques, enfin, beaucoup le font. Vous avez développé. Alors, racontez-nous un peu comment cette plateforme s'est développée, enfin voilà, sur quoi elle repose, et puis derrière, pour quel usage?
Écoutez, nous on est parti d'un constat qui surprendra pas vos auditeurs et vos téléspectateurs, c'est qu'on est en face d'une révolution qui est probablement une révolution sans précédent et dont on a constaté qu'elle avait 3 caractéristiques. La première, c'est son ampleur et donc la capacité qu'elle a à transformer les organisations et à donner de la performance. Et nous, on est financé par le contribuable, donc on doit au contribuable de rechercher la performance. Oui. La deuxième caractéristique, c'est qu'on a une technologie, et je parle là des LLM, c'est-à-dire non pas du machine learning, de l'IA en général, mais de l'IA générative par langage, qui est démocratique, qui est utilisable par chacun, qui casse en quelque sorte la barrière technique jusqu'à présent. Et puis le troisième sujet, qui est encore plus dans le cœur de vos émissions, c'est que c'est une technologie qui change à un rythme qui est littéralement ahurissant.
Une innovation galopante dans ce domaine. Alors l'usage, ça va être quoi? Ça va être pour les collaborateurs internes, c'est ça? De la société?
Absolument. Notre objectif, c'est l'acculturation et le développement des usages par les collaborateurs. Donc le constat qu'on fait, c'est que ce qui prend du temps en réalité, c'est de développer une culture d'emploi. Et donc ce qu'on a essayé de faire, c'est développer une philosophie d'emploi reposant sur des usages responsable. Donc responsable, c'est responsable en matière de données, vous l'avez évoqué, c'est responsable en termes de sobriété énergétique, pour faire ça, on avait besoin d'une infrastructure, et donc le choix qu'on a fait en complément des solutions Copilot, c'est de développer une infrastructure à nous, qui est pour les collaborateurs, et qui leur permet d'accéder à plusieurs LLM, pour ne pas se lier à un fournisseur, et puis pour évoluer, de pouvoir l'héberger pour des modèles open source sur des serveurs souverains, Bootscale, Secnum Cloud, et de pouvoir faire du rack d'entreprise également hébergé souverain là-dessus.
Donc là, il y a un gros enjeu de souveraineté. Déjà, à la base, vous dites, voilà, il y a du Outscale, il y a du Mistral, mais pas que. Hein, vous l'avez dit, vous allez vous appuyer sur les autres LLM. Mais vous, la souveraineté vient surtout dans les données, puisque comme vous parlez de rack, ça veut dire que tout ce que... Parce que j'imagine que derrière, c'est des documents juridiques, des documents de technique, des documents opérationnels. Tout ça, ça reste évidemment dans votre environnement société des grands projets. Et donc là, à vos collaborateurs, d'aller piocher des informations, d'aller rechercher les informations dont ils ont besoin à travers cette plateforme Ariane.
Absolument. Et de leur permettre du coup de gagner de la productivité et de développer des usages. Le constat qu'on fait aussi, c'est que l'objectif, c'est pas de prescrire des usages, c'est de donner une infrastructure pour que les collaborateurs puissent s'en emparer d'usages ou d'usages combinés. Je prends un exemple, la capacité à coder et la capacité à faire de l'analyse sémantique. Ben quand vous le combinez, ça vous permet de développer des petits scripts pour traiter des données structurées mais qui n'étaient pas homogènes parmi les 2400 entreprises là, et ensuite de les analyser. Donc on arrive à créer de la valeur non pas sur un usage de productivité pure mais sur des combinatoires d'usages à partir desquels on peut aller plus loin.
Alors justement, adoption interne, alors j'ai dû vous indiquer que 100% des collaborateurs formés ont accès à Ariane. Comment on réussit justement, parce que c'est un peu le souci aujourd'hui, hein, la technologie elle est là, elle fonctionne, les données en général on les a, alors il y a un peu de gouvernance à mettre, il y a l'éthique aussi, il y a beaucoup de choses à mettre autour de tout ça, mais souvent ce qui manque c'est que on forme les gens et puis si on les suit pas au quotidien, bah rapidement ils retombent dans leurs travers habituels. Alors les plus aguerris vont continuer à utiliser l'outil, mais voilà, comment on fait pour que justement les gens adoptent cet outil, ça devienne vraiment leur interface standard qu'ils vont utiliser à tout moment?
Je pense qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension technique. Il faut leur donner des outils qui sont adaptés et pour les plus avancés, qui essayent de pas être trop loin de la frontière technologique, ce qui est évidemment difficile parce que la frontière technologique, elle bouge très vite.
Ah oui.
Et puis, il y a une dimension culturelle. Il faut leur faire confiance. Il faut leur parler en adulte. Il faut leur dire que, de toute façon, c'est leur intérêt de s'approprier ces outils, de développer leur employabilité, de développer leur performance. On a vraiment un cercle vertueux, y compris d'ailleurs en termes d'attractivité RH, qui est de dire aux collaborateurs, si vous venez chez nous, vous allez acquérir cette compétence et ne vous inquiétez pas, c'est normal de vous poser des questions. Et ce que je trouve moi extrêmement positif aujourd'hui dans notre appropriation, c'est que les deux craintes principales qui émergent quand on fait une enquête chez nos collaborateurs, c'est la crainte sur la sécurité des données et la crainte sur la qualité des livrables. Donc ce sont des craintes qui sont vraiment des craintes qualitatives, donc je trouve que c'est la maturité.
Et pas crainte d'être remplacé, de se dire oula.
Et pas crainte d'être remplacé.
Et puis je le rappelle, vous êtes Frédéric Bridiou en charge d'avoir des finances, des achats, des ressources humaines, des systèmes d'information, du juridique, de l'audit. Ça fait tous ces métiers-là qu'il utilise. On parlait du codage tout à l'heure pour les gens du système d'information, de la production informatique, mais il y a aussi des gens de l'audit, du juridique qui se servent de tout ça. Hein.
Et nos équipes opérationnelles. C'est développé. On a la frontière chez nous entre le juridique et l'opérationnel. On gère des marchés. Elle peut être discutable, mais ce sont des outils qu'on offre à tous nos collaborateurs, pas seulement à mes équipes. Et l'intérêt du ce qu'on appelle parfois le vibe coding, c'est précisément de donner à des gens qui ont un peu d'appétence, qui ont un peu d'envie, la capacité à se développer le petit script, la petite application qui jusqu'à présent mettait beaucoup de temps et avait pas de ROI sur un petit usage.
Alors, il y a aussi, parce qu'évidemment on en parle beaucoup dans le domaine de l'IA, c'est l'impact environnemental, et je crois que vous avez mis un petit calculateur carbone aussi qui permet à tout le monde de voir un peu, je fais une requête, combien je consomme, c'est ça l'idée?
Oui, c'est ça, parce qu'on voit bien qu'en réalité, entre les modèles et entre les hébergements des modèles, donc l'origine de l'énergie, on va se retrouver sur des rapports qui sont des rapports de 1 à 10 peut-être entre les modèles et de 1 à 10 entre l'énergie. Et donc c'est effectivement de dire aux collaborateurs, ne vous servez pas systématiquement du modèle à la frontière pour un usage simple. Utilisez un modèle plus simple quand votre usage est simple. Privilégiez des modèles qui sont hébergés en France, donc des modèles open source, qui sont...
Donc il y a un petit guide un peu d'usage.
Absolument. Et regardez ce que ça donne en termes d'impact carbone.
C'est intéressant de faire ça. Plusieurs entreprises commencent à le faire justement pour que tout le monde s'imprègne aussi de ce critère. Dernière question, Frédéric Bridio. Ariane, c'est donc cette plateforme, là aujourd'hui c'est pour les collaborateurs de la Société des Grands Projets. Est-ce que ça peut être ouvert à d'autres organismes publics peu à peu? Est-ce que, voire même nous, utilisateurs au quotidien de transport public, est-ce qu'on pourra vous imaginer des différents services qui vont s'ouvrir?
Alors non, là c'est vraiment un outil qui est interne.
Mais qui peut inspirer d'autres services, vous pensez, de l'État? Est-ce qu'il y en a d'autres qui regardent?
Je pense qu'on a beaucoup d'organisations publiques qui sont aujourd'hui avancées, et certaines d'entre elles probablement plus avancées que nous sur les enjeux qui sont les leurs, qui sont souvent des enjeux très industriels avec des process de masse. Nous, c'est pas notre situation, hein. On a une organisation qui a 1050 collaborateurs, peut-être 70 métiers, donc des enjeux qui sont pas des enjeux industriels à proprement parler. Mais je pense que toutes les organisations ont intérêt effectivement de se tourner vers notre écosystème de tech qui peut les accompagner, de s'emparer de ça et d'offrir à leurs collaborateurs cette possibilité d'aller rechercher de la performance et ce faisant aussi, c'est un point important pour nous, de fidéliser les collaborateurs et d'avoir un élément d'attractivité pour conserver les meilleurs dans l'organisation.
Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout cela. Plateforme donc Ariane, hein, plateforme d'IA qui vous aide les collaborateurs de la Société des Grands Projets dont vous êtes membre du directoire, Frédéric Bridio, à mieux travailler grâce à cette IA. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On marque une courte pause si on va parler innovation avec le livre de Paul-François Fournier, c'est de BPI France que vous connaissez. Bien voilà, on va parler de la fabrique de l'innovation, de la R&D dans les entreprises. C'est pas aussi simple. Vous allez voir ça avec lui, c'est tout de suite.
Tech & Co Business, l'invité.
Allez, notre invité, on va parler innovation, bien entendu, parce que c'est sa spécialité. Paul-François Fournier, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Directeur exécutif innovation chez BPI France, mais aujourd'hui, ici en plateau, alors bien sûr, fort de cette expérience, alors chez France Télécom, Orange, pendant plusieurs années, et depuis 13 ans déjà, je disais hors micro, chez BPI France, pour cet ouvrage qui s'appelle « Innovation au carré », qui est aux éditions Anne Carrière, que je vous conseille. Alors, c'est la nouvelle fabrique de les grandes entreprises, c'est comment les grands groupes, enfin, l'idée c'est ça, hein, c'est comment les grands groupes doivent repenser leur façon d'innover. Première question justement, est-ce que là, quand on entend tout ce contexte géopolitique aujourd'hui, on a l'impression que les entreprises ont parfois la tête ailleurs, ce qu'on peut bien comprendre hein, selon leur situation, il faut malgré tout qu'elles repensent leur façon d'innover?
C'est vrai que c'est difficile, il faut bien le reconnaître, pour avoir été, et puis pour nous, pour subir et voir au plus près des entrepreneurs les crises successives, c'est vrai que dans un monde où on regarde les actualités le matin fébrilement pour voir ce qui s'est passé la nuit, c'est compliqué de se projeter sur 5 à 10 ans. Mais en même temps, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut s'habituer à ce rythme de perturbation et il faut se redonner justement, je crois, des réflexions sur le temps long, parce que les fondamentaux, ils sont quand même, ils restent
avec une innovation galopante, hein, quand on voit l'IA notamment.
Voit l'IA, et c'est un des points importants, c'est qu'on voit que l'IA en fait va encore baisser la barrière à l'entrée de l'innovation. Le digital, c'est ce que j'explique un peu dans le livre, le digital a changé la rapidité et le modèle avec la création des startups comme un modèle qui est en fait une baisse de la barrière à l'entrée qui a permis aux startups de rentrer sur ce marché ou sur ce potentiel. L'IA en fait va le décupler puisque au fond c'est le digital au carré d'une certaine façon, et donc des entreprises vont pouvoir faire avec des coûts beaucoup plus faibles beaucoup plus de choses, et les startups vont prendre une part de plus en plus importante.
Alors c'est bien ce que dit cet ouvrage, hein, innovation. Il y a une première partie qui est un peu le constat, et c'est bien parce que ça remet un peu les choses. On se dit ah bah oui tiens j'y pensais plus à ça. Voilà. C'est vrai. Et puis l'autre partie c'est plus un guide presque. Voilà un peu les étapes que vous pourriez voir. Enfin réfléchissez à ces étapes là et voyez si vous pouvez les appliquer dans votre entreprise. C'est un peu comme ça.
C'est ça exactement. Donc il y a effectivement une première partie qui est un peu l'histoire où j'ai essayé de redécrire un peu le pourquoi du comment de cette révolution.
Mais qui est pas mal, hein, je répète, parce qu'au début, on se dit, oui, alors quand on baigne là-dedans, on se dit, bah oui, je connais. Mais finalement, on se dit, ah oui, tiens, je pensais plus à ça. C'est pas mal d'avoir
Et qui permet aussi de prendre conscience, au fond, comme tu dis, on est baigné dedans, mais on prend pas toujours le temps regarder le recul de ce qui s'est fait. Et ça dit en particulier, c'est un des éléments, je crois, importants, que les startups, ça représente aujourd'hui plus de 20% de la R&D faite en France. Mm-hmm. Ça a doublé, en fait, en 10 ans. Et ce que j'ai essayé dans la deuxième partie, c'est essayer de répondre un peu à la question, parce que c'est vrai que les grands groupes ont essayé beaucoup de choses, mais de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à l'échelle. Oui. Et donc j'ai essayé de formaliser les différents outils, principalement financiers.
Oui, parce qu'il y a quelques exemples qui marchent quand même. Hein,
Il y a quelques exemples.
Dans la biotech, dans la pharma,
exactement,
notamment.
Exactement. Ouais. Et les éléments que j'essaye de défendre, c'est que les grands groupes ont essayé des outils, mais l'ont pas considéré toujours comme un processus un peu cohérent dans ces différents outils.
Ils l'ont fait un peu à la marge,
ponctuellement, en prenant les outils. Mais en fait, il faut raisonner en termes de processus global. Ouais. Et donc, on voit bien que quand on fait du M&A, bah, c'est plutôt le patron ou la direction financière. Quand on fait du scouting, des premiers POC, c'est soit le business, soit le directeur de l'innovation. Ouais. Moi, je crois que c'est en fait un processus, en réalité, sur lequel il faut avoir une gouvernance et une responsabilité et un budget. Et puis ensuite, le deuxième élément, je crois, important, c'est de se dire, bah, en fait, si ça représente plus de 20%, et encore une fois, ça va passer à 30 ou 40% dans les années à venir avec l'IA, il faut commencer à raisonner quel est le pourcentage de R&D que je vais mettre dans ce nouveau processus. Mm-hmm. Et j'essaye de dire que le 20% de part de R&D dans les startups, c'est un premier guide, entre guillemets, oui, qui nécessite de mettre les moyens, qui va permettre aussi de dérisquer un peu ce monde des startups qui reste avec un niveau de risque élevé. C'est la physique du monde du VC, c'est-à-dire que au fond, dans un fonds de VC, vous avez deux boîtes qui vont cartonner, 5 ou 6 boîtes qui vont plutôt bien marcher, correctement, et puis 5 ou 6 boîtes qui vont tomber. Bah, il faut du coup du volume pour être capable de tomber sur ces 2 boîtes qui vont super bien marcher et 6 boîtes qui vont bien marcher. Et cette règle de la physique de ce monde du VC, de ce monde du capital risque, il faut l'intégrer dans les grands groupes qui ont pas du tout cette culture plus déterministe.
Oui, j'entendais, on avait Patrick Pouyanné sur l'antenne il y a quelques jours, là vous pouvez retrouver d'ailleurs l'émission en replay avec Laure Closier, où il disait mais moi investir dans les startups, je suis pas BPI France moi. Mais justement, faut
alors plus... il est pas BPI France, que je voudrais le convaincre, c'est qu'à un moment s'il veut réintégrer de l'innovation, il va bien falloir qu'il la réintègre et qu'il mette les moyens. Mmh. Et il fait de la R&D et il investit massivement quand même encore en R&D dans ses propres processus. Oui. Donc,
ils ont des laboratoires communs,
ils ont des laboratoires avec le CNRS, ils font des choses. La question, c'est juste qu'est-ce que j'affecte entre les deux. Mm-hmm. Mais à la fin, si vous laissez s'évaporer cette valeur, ce qu'ont fait la plupart des grands groupes ces dernières années, bah en fait, votre R&D, elle est moins efficace mécaniquement. Mais surtout, à un moment, il va falloir la réintégrer parce qu'il y a plein de choses qui se passent intéressantes et que les grands groupes peuvent valoriser parce que leur capacité de distribution, leur capacité d'industrialisation, leur capacité de
même
marketing.
Même un peu de 109, quoi. Parfois, puis, ça fait un peu ça. Ouais.
Et puis, effectivement, un peu
même sans remettre en cause.
Un peu de 109 et un peu de nouvelles façons de travailler.
On sent que la difficulté, parfois, et j'en avais parlé, on parlait du CNRS avec Antoine Petit à un moment, j'ai dit, mais comment ça se fait que les chercheurs aussi forts soient-ils n'arrivent pas, et les entreprises aussi intelligentes soient-elles, n'arrivent pas à mieux collaborer? Il dit, parfois, c'est des histoires d'agenda, de but. On a les chercheurs, ils vont dans une optique précise. L'entreprise va dire, ah oui, moi, c'est le domaine dans lequel j'aimerais aller. Mais là, ce que vous faites, vous, en tant que chercheur, ça va, c'est trop pointu pour moi. Et donc, du coup, ça m'intéresse un peu, moi. J'aimerais que vous élargissiez un petit peu votre recherche. Mais le chercheur dit, ah oui, mais moi, ça se décale par rapport à mes travaux. C'est ça qu'il faut.
Je pense qu'on est en train de recréer une chaîne nouvelle, d'une certaine façon, où on voit que les chercheurs ont déjà beaucoup évolué. Moi, je suis au conseil du CNRS, je vois la transformation qui a été mise en place.
Bien sûr,
les chercheurs sont... Pour la plupart, il y en a qui font de la recherche fondamentale, et c'est très bien, personne ne le remet en question. Mais il y a plein de chercheurs aussi, en particulier les plus jeunes, qui se disent, bah, moi, si je peux avoir un impact dans la vie économique réelle, bah, pourquoi pas? Et donc, cette transformation, elle s'est faite beaucoup. Et puis, il y a le développement des startups comme un nouveau vecteur. Mais à la fin, il faut boucler la chaîne. À la fin, les grands patrons de filières, c'est quand même les grands groupes. Et c'est eux qui vont avoir la puissance de feu pour distribuer mondialement et gagner. Et donc, il faut que toute cette chaîne, elle se réinvente avec ce nouvel acteur qui sont les startups, pour que, au fond, tout ça soit plus efficace et plus fluide. Et on a la chance, en France, d'avoir les grands centres de recherche, un écosystème de start-up qui commence à être puissant, et puis des grands groupes mondiaux. Donc, il faut juste qu'on arrive à trouver cette fluidité.
Et c'est ce que dans cet ouvrage, donc il y a un guide en plusieurs étapes, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut intégrer. Aujourd'hui, on a l'impression, voilà, les entreprises ont leur centre de R&D, et puis de temps en temps, elles accolent un peu, tiens, bah, cette start-up, on va travailler avec elle. Et c'est ça qu'il faut réussir. Il faut dire, mais non, ça doit faire partie de votre stratégie de R&D. Et c'est ça ce que tu as remarqué vraiment dans
Oui, moi, ce que j'essaye de dire, c'est que maintenant, il faut passer à l'échelle.
Ouais.
Et qu'il faut mettre les moyens. Et donc, il faut raisonner. Moi, je crois qu'il faut se poser la question pour les grands groupes. Je suis pas sûr que toutes les faits. Quelle est la part de R&D qu'ils mettent dans l'investissement, l'acquisition, les achats, l'investissement dans les startups. Est-ce que ça représente 1, 2, 5, 10, 20 ? Voilà. Et je pense que cette première question de se dire, au fond, je regarde mon budget de R&D et je me dis entre ce que je fais avec ma R&D interne qui a toujours sa valeur et autres, et ce que je fais avec les startups, eh ben, c'est une bonne manière de se dire est-ce qu'on est dans les bonnes métriques. Tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont fait cette transformation déjà. Bon, je parle des GAFAM et tous les acteurs du digital, c'est plus naturel pour eux. Mais les biotech, les pharma.
Oui,
les pharma ont fait ça massivement. Les pharma, j'ai donné un nombre de chiffres.
Mais parce que ils étaient acculés, sinon, enfin de.
Bah oui, mais peu, je pense que, oui et non, pour moi, ils ont plutôt été en avance en comprenant qu'avec le digital et demain avec l'IA, la probabilité qu'ils trouvent toutes les molécules qui allaient dans leur propre labo étaient faibles. Mmh. Et que donc, ils allaient falloir qu'ils fassent un entonnoir pour réintégrer ces molécules dans leur boîte pour leur donner ce qu'ils savent faire, encore une fois, une dimension industrielle, une dimension distribution. Et ces grands groupes de la pharma, ils raisonnent en pourcentage de R&D qu'ils mettent entre leur R&D interne et leur R&D externe, et c'est plutôt entre 30 et 50%.
Ce qu'il faut, c'est pas les opposer, hein, c'est ça.
Non,
parce que ça, c'est une erreur. Quoi,
bah, oui, je pense qu'on veut les opposer. Je pense que les deux sont très complémentaires. Mm-hmm. Je pense qu'il faut juste réallouer et penser en processus et allocation de budget qu'on met sur ce nouveau processus. C'est pour ça que j'ai appelé ça innovation au carré.
On a un exemple, d'ailleurs, alors c'est un exemple européen, mais qui nous intéresse un peu en France, avec ASML, donc ces machines là pour fabriquer des microprocesseurs là, très pointus, etc. Enfin, c'est une technologie incroyable, qui s'est alliée avec Mistral, et justement, et Mistral est rentré dans les process industriels. Il y a eu un investissement, il y a eu évidemment un échange d'argent.
Plusieurs centaines de millions d'euros, c'est massif, donc ça, c'est un changement d'échelle. Il y a un très bel exemple dont on parle un peu en ce moment, qui est en fait Wondercraft avec Renault.
Oui.
Un groupe industriel, historique, qui a investi dans Wondercraft pour faire des robots qui vont permettre de porter des charges lourdes.
Des exosquelettes.
Il vient de commander 350 robots pour ses usines. C'est complètement game changer pour Wondercraft, parce que ça donne une visibilité et une crédibilité à leur solution. Et en même temps, pour Renault, ça leur donne une avance technologique et un savoir-faire qui est très important. Et par ailleurs, ils sont actionnaires, donc ils vont profiter de cette création de valeur. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent. Je crois qu'il faut juste commencer à se dire, bon, bah, maintenant, comment on déplace ce curseur pour passer de 1, 2% de ma R&D à peut-être 10, demain 15, et à terme, probablement 20, avec l'arrivée de l'IA.
Ouais, mais c'est important. C'est cette histoire, oui, de regarder le pourcentage de dépenses en R&D, puis savoir un peu où on va, c'est important. Merci. Paul-François Fournier, donc ce livre s'appelle Innovation au carré aux éditions Anne Carrière. Voilà, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies, en ligne aussi, bien entendu. Et je vous le conseille vraiment parce que ça fait réfléchir pour tous ceux qui veulent innover intelligemment, sans opposer son département de R&D à des startups. Voilà, il y a quelques belles pistes, en tout cas, dans cet ouvrage. Merci,
merci
d'être venu nous en parler. On continue à parler d'IA, on va parler de développement, les équipes de dev dans les entreprises, dans les DSI. C'est tout de suite après la pause. Restez avec nous sur BFM
Business. Tech & Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
Allez, on va parler développement et équipe de production dans un instant avec nos invités suivants. Mais pour l'instant, on va parler d'IA générative à l'occasion de... Alors, on vous parle évidemment beaucoup d'IA générative, mais là, c'est à l'occasion d'un ouvrage qui est sorti. L'IA sera ce que tu en feras. Alors, la particularité de cet ouvrage, c'est qu'il était sorti... première édition en 2019, et là, la deuxième vient de paraître le 22 avril, donc aux éditions Duno, les 10 règles d'or de l'intelligence artificielle. Et pour en parler, Jean-Philippe Débiol. Bonjour Jean-Philippe.
Enchanté.
Merci d'être avec nous, directeur général Financial Services et Generative AI, IMEA leader chez IBM. Et Laurent Prudhon. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes directeur de la Cognitive Factory au Crédit Mutuel. Alors, qu'est-ce qu'on dit de plus dans cet ouvrage? Alors, il y a 7 ans qui ont passé entre les deux. Bon, je pense qu'il y a surtout la date de novembre 2022, l'IA générative qui sort, là maintenant on est dans les agents IA. Si on enlève un peu tous les fantasmes des discours, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'on dit dans cet ouvrage, Jean-Philippe?
Alors, c'est ce qu'on s'est dit avec Laurent lorsqu'on a eu ce projet commun de rééditer ce livre, c'est finalement qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui n'a pas changé. Alors commençons par ce qui n'a pas changé, c'est que quelque part l'IA sera ce que tu en feras version 2019, c'est encore plus vrai aujourd'hui que ça n'était hier. Mm-hmm. C'est un phénomène, je dirais, très profond qui est en cours, une transformation majeure, et quelque part ce qu'il y a de nouveau, c'est trois choses. choses. La première chose, c'est qu'on est passé d'une logique où on appréhendait l'IA comme un outil, et maintenant on l'appréhende comme étant un collègue, un co-worker. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on décrit dans le livre quand on parle de co-era, comme collaborer, co-designer, co-travailler. C'est pas un changement de mot, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que ce monde du travail est en train d'évoluer à une vitesse incroyable, dans lequel l'IA occupe une place maintenant comme étant un collègue avec lequel on doit apprendre à travailler. Mmh. Et donc, tout le sous-jacent de ça, c'est quelles sont les nouvelles aptitudes, les nouvelles compétences qu'on a développées, mais aussi paradoxalement, ce qu'on écrit dans le livre, il faut avoir un certain lâcher-prise. On ne pourra pas et on ne doit pas tout faire. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas tout superviser et tout contrôler, ce qui est deux choses très différentes. Donc, première chose, la co-era. La deuxième chose qui est en train de se passer, et c'est l'agentique qui amène ça de vitesse fulgurante, c'est qu'on est passé dans une logique de relation à quatre. Relation à quatre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part que les clients finaux auront des agents, les banquiers auront des agents, et donc la relation, le modèle relationnel qui régit l'ensemble de ces acteurs va être extrêmement complexe, puisque les agents vont travailler ensemble, l'homme, les hommes et les femmes vont travailler ensemble, et quid quelque part de la supervision de cette relation-là, quid de la valeur générée par cette relation-là.
Et puis même, moi j'ai plus loin parfois, je parle même de l'infrastructure, là, quand on est des milliers de collaborateurs comme au Crédit Mutuel. Absolument. Et tout d'un coup tout le monde a ses agents, on se retrouve à des millions de collaborateurs.
C'est absolument
ça. Faut tenir la charge aussi.
Et bien là, tu évoques un sujet majeur, c'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est qu'on est enfin en train de rentrer dans des vrais sujets, qui sont des sujets d'infrastructure, d'architecture fonctionnelle et technique, que n'avaient pas amené les premiers sujets d'IA, qui étaient très superficiels. Et le dernier thème qui est cher à Laurent et moi, c'est fondamental, c'est le triptyque, c'est-à-dire confiance, adoption, ROI. Sans confiance, il n'y aura pas d'adoption, et sans adoption, il n'y aura pas de retour sur investissement. Donc toute la question maintenant, c'est comment est-ce que je m'assure qu'on ait une IA de confiance qui génère l'adoption, et donc une vraie utilisation de l'IA, et in fine, un retour sur investissement.
Alors justement, je regardais une étude faite par IBM Institute for Business Value qui disait 64% des dirigeants français craignent l'échec de leur projet IA. Alors c'est par manque d'intégration, par manque de formation, ce genre de choses. Laurent, comment on voit ça quand on est les manches remontées, les deux mains dedans?
Oui, c'est ça la complémentarité qu'il y a dans le livre. Jean-Philippe avec sa vision. Et puis moi qui suis dans la soute à essayer d'implémenter tout ça. Et donc vous en avez parlé et ces deux aspects sont importants. Il y a un vrai aspect d'infrastructure, d'architecture, de compétences dans le système d'information. Nous sommes une banque, nous devons une absolue confidentialité, résilience des données pour nos clients. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous mettre à la merci des plus grands fournisseurs. Et donc, nous devons tout construire en interne. Heureusement, dans notre cas, nous pouvons nous baser sur 10 ans. Ça fait 10 ans que nous avons créé des équipes dédiées sur le sujet. Et nous avons embarqué tous les mécanismes pour développer et mettre sous contrôle l'IA directement dans nos systèmes d'information. Et puis, il y a l'aspect gouvernance. Donc, nous avions anticipé un peu cette arrivée de l'IA générative avec la création d'une charte éthique de l'IA qui n'est pas un document de communication, qui est vraiment 26 engagements extrêmement concrets derrière lesquels nous avons des équipes à plein temps qui travaillent pour implémenter concrètement dans les processus, dans les architectures, ces engagements.
Donc on a la partie confiance, on a la partie développement là, et cette partie ROI aussi. Comment on décide lorsqu'on est là au Crédit Mutuel en l'occurrence, mais quand on est dans une entreprise, de dire ça on peut y aller, ça, parce qu'il y a cette crainte hein, quand même, on la voit souvent.
Eh bien, c'est pensé dès le départ, c'est-à-dire que, par exemple, dans notre entreprise, nous avons créé des cellules d'accélération de l'IA dans chacune des entités, dans chacun des domaines de l'entreprise. Nous donnons presque une dizaine de jours de formation aux personnes qui en font partie et qui peuvent imaginer les cas d'usage, mais dès le départ, mesurer, évaluer leur retour sur investissement grâce aussi à l'expertise interne sur l'analyse technique qui permet de flécher tout de suite les projets les plus impactants.
Alors, Laurent insistait, de Crédit Mutuel, insistait sur cette côté souveraineté.
Oui.
Alors, c'est vrai que c'est important. Est-ce que cette IA, entre guillemets, à la française, je ne veux pas dire qu'il faut utiliser que des outils français, on a la chance d'avoir un beau leader avec Mistral, mais enfin, il y en a d'autres derrière. Uber, hein, il y a des Dust, il y a des, enfin il y en a, y a beaucoup d'entreprises, mais après c'est l'usage que l'on en fait, même des modèles des anthropiques, etc. Absolument. Comment on réussit à concilier tout ça, souveraineté des données, éthique, performance, et puis utilisation des outils qui sont pas forcément tous franco-français.
Ouais. Alors ma vision sur le sujet de la souveraineté est assez simple. Je pense que la souveraineté n'est pas qu'une question de couleur de solution. Ça, c'est extrêmement réducteur de penser ça. A contrario,
et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait vite
très limité et très. Tu as absolument raison. Et je crois que le Crédit Mutuel en est un exemple vivant. C'est pour ça qu'on travaille ensemble depuis maintenant plus d'une décennie. C'est-à-dire quelque part que la souveraineté, c'est d'abord la maîtrise de ce qu'on fait. Et la maîtrise de ce qu'on fait, ça passe entre autres par une logique, on va dire on-premise, c'est-à-dire ce qu'on fait au sein de la maison. Deuxièmement, ça passe aussi par un aspect humain de compétences, de savoir-faire qu'il nous faut avoir en interne pour ne pas être dépendant effectivement de quel que soit le partenaire et de sa couleur d'appartenance, ce qui n'a aucune importance à ce stade. Par contre, ce qui est important, c'est quelles sont les compétences qu'on développe quantitativement et qualitativement pour pouvoir être souverain dans le déploiement de l'IA. Et donc, quelque part, je pense que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui entre des acteurs qui, effectivement, malheureusement, ont une dépendance très forte à, on va dire, un environnement extérieur quel qu'il soit, versus d'autres acteurs qui ont su développer ces compétences-là. Et ce qui est amusant entre nous, c'est que ce qu'on voit sur l'IA, mais est vrai aussi sur d'autres sujets, par exemple le quantique, où des groupes ont pris de l'avance en développant leurs propres compétences. C'est toujours cette même philosophie, c'est-à-dire on a une logique industrielle, on a une logique souveraine dans la mesure où on est maître de son destin au travers des compétences et de solutions que nous avons mis en place au sein d'une entité.
Je reviendrai sur le quantique dans un instant. Laurent Prudhon, Crédit Mutuel, il y a des exemples très concrets de mise en place, enfin, vous en avez certainement en tête, mais un ou deux dont vous pouvez nous parler.
Ben, par exemple, pour nous, comme beaucoup d'entreprises autour de la relation client, aujourd'hui, on peut, grâce à l'IA générative, préparer les entretiens, optimiser la restitution, l'exploitation de l'entretien qui a lieu, puis après l'entretien, faire un suivi et optimiser les échanges avec le client. Donc autour de la relation client et de l'accueil, c'est aussi beaucoup de projets en back-office sur le traitement des appels, de la conformité, de la réglementation, qui est une charge importante, avec à chaque fois l'enjeu de pouvoir accélérer les traitements et offrir un meilleur service.
Et alors, derrière, je vois ça, parce que c'est le sujet, enfin je trouve que cette année, sur 2026, il y a deux au-delà de l'IA qui accélère, etc., il y a deux sujets un peu forts, c'est tout ce qui est lié à la cybersécurité, on en a un peu parlé, et c'est tout ce qui est lié à l'emploi. On en parle beaucoup plus aujourd'hui, même si, selon les études, quand une entreprise dit, voilà, on a supprimé 10 000 postes, c'est plutôt à cause de l'IA, c'est plutôt la moitié qui sont vraiment à l'IA. Mais comment vous voyez ça? Alors, on dit toujours, voilà, l'IA ne remplacera pas complètement l'humain, mais on sent quand même qu'il y a un mouvement, là, aujourd'hui.
Alors, dans le livre, je pense que c'est bien développé. Il faut bien voir qu'avec l'IA, et même avec l'arrivée de l'IA agentique, qui va être un impact, un collègue un petit peu plus fort que ce qu'on avait précédemment, mais on est toujours dans l'automatisation de certaines tâches dans un métier. Or, un métier contient de nombreuses tâches. Oui. Et en particulier, dans la banque, dans l'assurance, on a des conseillers qui sont extrêmement généralistes, qui vendent des centaines de familles de produits, donc qui font des milliers de tâches au quotidien. Et donc nous, informaticiens, même si on les aide à en automatiser quelques-unes, eh bien, il en reste beaucoup. Mmh. Et donc, l'objectif n'est pas d'attaquer l'emploi, bien sûr que non. L'objectif est toujours de pouvoir se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, on le disait déjà, mais aussi de monter en qualité.
En fait, quand on se sent débordé par plein de choses, l'IA va nous aider à être peut-être toujours débordé, mais un peu moins par certaines tâches où il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée.
Oui, et ce qu'on décrit dans le livre, il y a deux mots qu'on a utilisés, c'est qu'on est en train de passer d'une logique d'humain. Tu sais, on a beaucoup parlé d'humain augmenté, assisté. Oui. C'est toujours le cas, et ça continuera. L'un ne va pas exclure l'autre, donc ça va continuer à être une dynamique forte. Mais maintenant, il faut considérer cette notion d'humain délégué. Mm-hmm. Parce que là, l'IA agentique, ce qu'elle fait bien, c'est qu'elle agit. Elle agit au nom de qui? D'un utilisateur. Et donc, quelque part, il y a toute une problématique qu'il va falloir se poser, c'est quelles sont les tâches ou activités dont je souhaite qu'elles soient opérées en totalité ou partiellement par des agents sous mon contrôle, sous mon autorité, sous ma supervision. Et paradoxalement, et là je m'inscris en faux par rapport à ce nombre de discours, je suis convaincu d'une chose, c'est que plus l'IA avance, plus on a besoin de gens qui sont expérimentés, qui ont la connaissance nécessaire pour prendre du recul par rapport aux résultats.
D'ailleurs, on en parlera dans un débat dans un instant avec nos deux autres invités.
C'est
dans
fondamental.
Le domaine du codage.
C'est absolument fondamental. Mm-hmm. Puisque si on n'a pas ce recul, si on n'a pas cette expérience, comment veux-tu détecter les informations fausses qui sont inhérentes à l'IA? Comment veux-tu détecter les hallucinations qui sont inhérentes au système d'IA? Tu ne le peux pas. Donc c'est pour ça que je pense que là aussi, sur la partie dynamique des relations humaines, c'est fondamental. Et je te donne un petit chiffre en exclusivité. Mm-hmm. Oui. Ce matin est apparue une étude très intéressante, de mon point de vue, d'IBM, qui s'appelle la CEO Survey. 2000 oui. chairman ou chairwoman ont été interviewés au niveau mondial. Deux, trois findings que j'ai trouvé très intéressants, deux, trois éléments que je trouve intéressants. La première chose, c'est que une très grande majorité de ces CEO voit le retour des ressources, la direction des ressources humaines en première ligne de l'IA. Il était temps.
Oui.
Il était temps. Première findings. Et deuxième findings entre nous, c'est que quand je continue à dire qu'on est au tout début de la révolution industrielle qu'est l'IA, 25% à peine des 2000 présidents ou présidentes estiment que leurs collaborateurs ont réellement adopté l'intelligence artificielle au quotidien dans leur boulot. Oui. 25%. Donc le chemin est très long. Mm-hmm. Donc on a cette capacité d'action, on a cette capacité de faire.
Ceux qui ouvrent leur modèle dès l'arrivée à leur bureau, leur modèle LLM ou leurs agents justement.
Oui.
Juste un mot, on a rapidement évoqué le quantique. Tiens, quand on est une banque, voilà, un utilisateur, le quantique, on y pense forcément. Alors pour les sortes de cybersécurité, d'accélération de process, mais oui, il faut s'y intéresser aujourd'hui, Laurent Prudent.
Absolument, et on fait avec IBM depuis le départ, on fait plus qu'y penser chez Crédit Mutuel, mm-hmm. puisqu'on a créé en partenariat avec IBM une Quantum Factory, oui. de la même manière qu'on a une Cognitive Factory sur l'IA, absolument. Et de la même manière qu'on a investi, qu'on construit des data centers, qu'on achète des machines Nvidia, etc., pour maîtriser notre avenir. L'IA sera ce que tu en feras si tu maîtrises ton avenir. Ben c'est la même chose sur le quantique. Pour l'instant, c'est vrai que pour une utilisation dans la finance, c'est encore un peu prospectif. Oui. Simplement, on a des
équipes. Il y a le chiffrement post-quantique qui peut avoir.
Alors, ça, c'est autre chose. On travaille très sérieusement là-dessus.
C'est
évidemment. Mais vraiment, sur la partie exploiter des algorithmes quantiques mm-hmm. au service de la banque ou de l'assurance, eh bien, on a des équipes mm-hmm. conjointes qui travaillent, qui ont déjà des premiers cas d'utilisation en production. Pas d'accord. forcément aujourd'hui avec un avantage marqué mm-hmm. par rapport mm-hmm. à l'informatique
qui
classique,
seront appuyés sur
mais
l'accélérateur le
les équipes
où...
sont prêtes, elles maîtrisent la technologie, c'est branché dans notre système d'information et dès qu'on passe la barre d'un avantage quantique, on est prêt à démarrer.
Alors, petit mot, alors aussi une exclusivité Frédéric, là, c'est mm-hmm. pour le Avivatech, il y aura deux collaborateurs du groupe Crédit Mutuel sur le stand IBM pour parler de notre aventure quantique ensemble. Donc, point de rendez-vous Avivatech dans quelques semaines.
Ce sera le moment de s'y retrouver. Messieurs, merci à tous les
merci
deux. Jean-Philippe
Debiol,
donc directeur général Financial Services et Generative AI, IMI et leader chez IBM, co-auteur, enfin avec la collaboration absolument. De Laurent Prudent, directeur de la Cognitive Factory Crédit Mutuel. L'IA sera ce que tu en feras aux éditions d'Uno. Donc, allez-y. Hein, et la nouvelle. Alors, prenez pas celui de 2019, hein. Prenez bien celui qui est paru au mois d'avril. Merci à tous les
merci.
Deux. Et justement, on va continuer à parler d'IA parce que là, il y a un métier qui est profondément bouleversé, c'est celui de codeur, de développeur, d'architecte de projet. Absolument. Et on va en parler avec nos deux invités suivants. C'est tout de suite sur BFM.
Tech & Co Business, le débat.
Allez, on passe. On va parler de IA for Dev. Voilà, vous parlez de IA for cyber, IA pour plein de choses. Ben là, c'est et si un jour les développeurs disparaissaient, eh bien c'est la question à laquelle on va se s'intéresser avec nos deux invités. Rémi Jacquet, directeur général de Cast Software France. Bonjour.
Bonjour.
Rémi, merci d'être avec nous. Donc Cast Software, qui est un éditeur spécialisé dans l'analyse de code, dans l'analyse des logiciels, hein, sur tout ça. Et puis on parlera justement parce que depuis 2023, Rémi, tu es à l'origine d'un think tank avec alors, au départ, il y avait quelques DSI. Aujourd'hui, c'est une centaine de DSI. Il y a le CIGREF aussi. Sur l'impact de l'IA générative, de l'agentique, sur le développement. Et ça tombe bien parce qu'il y a des rapports qui sont, enfin, il y a des travaux qui sont sortis, des groupes de travail. Et on va s'intéresser pour décrypter un peu tout ça. Et puis, Didier Girard. Bonjour, Didier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. CTO et directeur général de Sphere, qui est une ESN d'environ 1000 personnes à peu près.
Oui, 1000 personnes.
Et là, des développeurs. Pur et dur, voilà.
Il y en a
beaucoup. Première question, un peu à tous les deux là sur le l'actualité. On voit évidemment tout ce qui est en train de se passer. On a les outils Claude, Anthropique qui arrivent. Là, dans l'actualité, on voyait SpaceX qui se dit tiens, je vais racheter Cursor. On se dit donc ah bah tiens, ils s'intéressent tous à ce type d'outils. Comment vous voyez la transformation de ce métier du développeur aujourd'hui, Rémi ?
C'est une vraie remise en cause complète du métier du développeur. Avant le développeur, il y avait d'abord différentes catégories dans une équipe de développement.
Il faut voir que là, on parle du métier de développeur en général, mais Didier pourra nous dire qu'il y a plusieurs...
Le développeur, en utilisant des agents IA, ça devient un chef d'orchestre, ça devient un manager d'agents spécialisé, capable de réaliser un certain nombre de tâches. Et donc, le développeur, en fait, va confier un certain nombre de tâches à ses différents agents et il va devenir un peu une sorte de juge de paix, de contrôler ce que font ses agents. Par contre, ça demande des qualités, des soft skills qui sont vraiment spécifiques. Ouais. Tous les développeurs ne vont pas être capables d'avoir forcément peut-être ce niveau-là. Il va falloir les former, il va falloir les accompagner. C'est une vraie remise en cause. Mm-hmm. Et donc, du coup, que ce soit pour les DSI ou pour les ESN, c'est une vraie remise en cause qui est intéressante, mais en même temps qu'il faut être capable de gérer.
Alors justement, Didier, on va en parler. Vous êtes au cœur avec Sphère, évidemment, de tous ces développeurs. Comment ils ont vu ? Alors ces outils-là, ils les ont vus, ils les ont intégrés très rapidement. Mais comment ils les perçoivent aujourd'hui, ces outils ? Est-ce que c'est des outils d'accélération, des outils de transformation, de meilleure productivité, mais pas seulement ?
C'est un peu tout ça à la fois, en fait. Ouais. Déjà, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que maintenant, écrire du code, c'est devenu anti-pattern. Ouais. C'est-à-dire, il faut considérer qu'une intelligence artificielle, maintenant, elle est capable de produire du code globalement de meilleure qualité que la plupart des ingénieurs. Mmh. Ça, il faut maintenant l'accepter, ouais, oui, en fait. Et donc, notre métier, le métier d'ingénieur et de développeur qui, historiquement, était de dire, on va rédiger du code, maintenant, on peut complètement confier ça à une AI.
Et du coup, qu'est-ce que ça change, enfin, pour les métiers? Parce que j'imagine, il y a quand même une crainte, là c'est 1000 personnes, c'est sûr, mais bon, dans l'ensemble, on est quand même un pays où on a de belles ESN, il y a quand même une crainte un jour de se voir un peu perdu dans tout ça, et je posais la question en ouverture, et si des développeurs disparaissaient, elle est vraiment présente, cette crainte dans les équipes, alors celles que vous côtoyez dans mon quotidien, mais globalement chez...
Moi je dirais que c'est plutôt un sujet qui est de l'ordre du fantasme, c'est-à-dire on aura toujours besoin de gens qui construisent du système d'information. C'est une certitude. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est vrai que les chiffres qu'on voit comme quoi une intelligence artificielle peut être 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois plus efficace qu'un ingénieur, c'est vrai en fait. Il faut considérer que c'est vraiment la réalité. Maintenant, est-ce que pour autant notre métier va disparaître? Mais pas du tout en fait. C'est-à-dire qu'on va déléguer à l'intelligence artificielle la capacité d'analyse, la capacité de raisonnement. Mais le côté on prend une décision, il restera toujours du côté des humains, en fait.
Et c'est là, Rémi, on reviendra dans un instant, parce que justement, c'est l'une des premières, un des groupes de travail, l'une des premières réflexions fortes de ce think tank, hein, fait autour de l'impact de l'IA générative pour les codeurs, c'est ce codeur qui devient concepteur, orchestrateur. Et c'est un vrai rôle important aujourd'hui.
C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, historiquement, on avait plutôt des ingénieurs qui étaient spécialisés. En gros, on disait on avait des front-end engineers, des back-end engineers, des data engineers. Plus ça va aller, en fait, et plus le métier, en fait, va s'étendre. Et ce qu'on va rechercher, c'est des gens qui sont capables, globalement, de comprendre le système d'une manière globale et qui vont déléguer l'expertise à des spécialistes qui sont, en fait, des AI.
On va voir plus d'architectes logiciels, c'est ça l'idée?
Avant, en gros, tu avais une tribu d'environ une équipe de 10 personnes, 10 développeurs avec différents profils.
Pendant 15 jours, 3 semaines.
Voilà, qui faisaient ce qu'on appelle des sprints de 14 jours. Maintenant, ça va être soit un chef d'orchestre, un peu product owner, software architect qui va tout faire, soit un duo qui va être capable de faire le travail de 10, mais non pas en 14 jours, mais dans non plus ce qu'on appelle des sprints, mais des bolts, des éclairs, en une heure, une demi-journée. Donc, pour être capable dans une organisation de passer à ce mode-là, c'est carrément une remise à plat complète de ce qu'on appelle le software development life cycle.
On va avoir des facteurs de productivité qui vont être importants, mais ça veut dire aussi qu'il faut apprendre, parce que je me dis toujours, moi la sensation que j'ai avec l'arrivée de cette IA générative, dans quelques métiers que ce soit, c'est le management intermédiaire, parce qu'on se retrouve avec, alors après on verra, hein, pour intégrer les jeunes développeurs aussi, ça c'est une autre histoire, mais le management intermédiaire, il va devoir gérer à la fois des développeurs en chair en os, et puis d'autres, il gérait déjà des robots avec le RPA et tout ça, mais de l'autre aussi des agences. C'est ça qui change aussi.
C'est une remise à plat, en effet, de l'organisation. Et tu vas avoir beaucoup de product owners, software architectes qui vont directement dialoguer avec le business et qui vont prendre l'entière responsabilité d'une partie du système d'information, d'une application. et c'est eux qui vont entièrement tout gérer en ayant créé et en étant chef d'orchestre de ces agents IA qui vont réaliser à la place de cette équipe de 10. Mm-hmm. Ils vont être capables de faire les tâches de coding, les tâches de design au départ, les tâches de QA, les tâches de DevOps, de contrôle, de conformité.
Et du coup, ça veut dire quoi? Et je vais poser cette même question à Didier Gérard dans un instant, mais du coup, ça veut dire quoi en termes de reskilling? Parce que les métiers ne sont plus du tout les mêmes. On va avoir, il y a les gens qui adoraient développer, c'était, voilà, ils avaient cette, comme certains aiment écrire des romans, il y a des codeurs qui adoraient écrire des lignes de code et qui cherchaient la beauté du code presque.
Il y a certains développeurs qui sont contre l'IA pour des raisons éthiques, il y en a qui ne font pas confiance. Il y en a qui aimaient écrire du code, qui vont pas forcément apprécier le fait de passer sur un rôle de software architecte, validateur du code généré.
Je ne crée plus.
T'as des gens qui n'auront pas forcément le niveau. Mm-hmm. Et donc ça veut dire que, eh ben, il va falloir, en effet, se poser des bonnes questions. Après, l'objectif, ça va être de dire, ben, avec cette même équipe, si on arrive à faire cet accompagnement du changement, de former et de transformer, les équipes vont pouvoir absorber beaucoup plus de demandes. Et souvent, il y avait un backlog des applications ou des projets qui ne pouvaient pas être traités faute de ressources. Là, c'est sûr que ça va donner une marge de manœuvre très significative pour être capable de réaliser beaucoup plus et accompagner l'entreprise dans l'évolution de son business en étant capable vraiment de produire tout ce qui va, toutes les idées qui vont venir du business. Là, normalement, une DSI va être capable d'y répondre.
On reprend un peu la maîtrise du temps, Didier Gérard, parce que c'est vrai que les projets informatiques, on le voit tous, hein, quand on est confronté à ces projets, on dit, ah oui, mais ça sera pas avant novembre, ça sera plutôt en 2027. Là, du coup, on reprend un peu la maîtrise du temps, c'est-à-dire qu'on a besoin toujours de ces 1000 personnes chez vous, mais voilà, on va aller plus vite sur certaines choses.
Alors déjà, pour revenir sur le 1000, en fait, ce qu'on dit maintenant, nous, chez Sphere, on est 1000, mais on a une capacité de production de 10 000, en fait. Oui. Il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'effectivement, on va être capable de produire beaucoup plus avec le même nombre de personnes. Donc souvent, il faut le voir un peu comme ça, c'est-à-dire que ça permet de produire beaucoup plus. Alors, le plus vite, évidemment, on va être capable de produire beaucoup plus vite. Et pour revenir à ça, c'est historiquement, Amazon avait inventé la fameuse pizza team.
Oui, oui. On est 6-7, voilà.
Ouais, voilà. Plus, et il faut se dire, si on prend cette pizza team de, c'était plutôt 8-10 personnes, on fait x10, on arrive sur des équipes de 80 à 100 personnes, ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on peut plus, la pizza team, comme elle existait, elle fonctionne plus à l'ère de l'AI. En gros, ce que j'aime dire, c'est que c'est comme si on se met à 10 pour vider un lave-vaisselle.
Oui.
Bah, finalement, on n'ira pas plus vite. Mm-hmm. Bah, l'arrivée de l'AI, c'est une espèce de mécanisation de la production de code. Et si les équipes restent de même taille, bah, finalement, elles vont se marcher un peu sur les pieds.
Donc comment on fait? On doit segmenter davantage dans les équipes
exactement,
de
c'est exactement ce qu'il faut faire. Et on parle chez nous maintenant de... Il y aura toujours des software engineers, le métier ne va pas disparaître. C'est-à-dire qu'il y a des moments où finalement, il y a des espaces où l'intelligence humaine sera toujours pertinente. Mais il y a l'arrivée d'un nouveau métier qu'on appelle le product engineer. Mm-hmm. C'est en gros, c'est la personne qui va être capable de créer de la valeur pour un usage donné. Et donc, effectivement, il faut trouver des espaces dans lesquels des petites équipes qui sont là pour sortir du produit, et qui sont là pour créer de la valeur directement. En fait, donc, c'est-à-dire qu'on va plus mesurer la pertinence d'un acte métier à la nombre de lignes de code qui est produite, mais finalement à la valeur qui est créée pour un besoin particulier.
Avec le temps imparti, c'est une transformation majeure dans les DSI. D'ailleurs, dans le think tank, c'est ce qui est dit. Hein.
Ouais, dans le think tank, il y a un nouveau groupe de travail qui s'est créé cette année. Avant, on avait des groupes de travail plutôt techniques. Mm-hmm. Le développeur augmenté, la modernisation des applications,
l'automatisation des tests.
Et là, maintenant, il y en a un, c'est la remise à plat de ce qu'ils appellent le software development lifecycle, avec tous les enjeux humains, organisationnels. Il y a vraiment un groupe de travail sur ce sujet-là pour voir comment transformer une DSI. À la rigueur, c'est peut-être plus facile de créer une nouvelle DSI qui serait déjà agent-based que de devoir transformer une DSI. Par contre, il y a des risques que ça introduit cette technologie de l'IA, on va y arriver.
On va y revenir, mais dans le débat juste avant, on disait le rôle important des DRH, ça va être ça, ce rôle.
Il va y avoir besoin, en effet, que les DRH, les DSI, les directions générales, de toute façon, s'il n'y a pas une prise de conscience d'une direction générale et d'une DRH des enjeux et des besoins de transformation, et donc ce n'est pas simplement mettre des budgets pour payer des licences et faire quelques formations. Alors c'est vraiment des budgets très conséquents de transformation d'organisation.
Didier. Pour moi, le succès de l'adoption de l'AI dans les organisations et dans les DSI, c'est le rôle de la DRH est vraiment fondamental. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut réimaginer des nouveaux métiers. Il faut voir que l'ensemble des compétences qui permettaient un peu de mesurer la valeur du sachant, ben, elle est en train d'être complètement bouleversée. Voire, on sait qu'avant, on acquiert une compétence.
On va comparer les gens au token consommé, au nombre d'agents créés, ça peut être ça.
En fait, avant, on acquérait une compétence et on va dire on pouvait vivre une dizaine d'années sur cette compétence acquise. Ouais. Maintenant, on peut considérer que ça s'est drastiquement réduit et qu'en gros, on acquiert une compétence et durée de vie un an. Ouais. Et donc, ne serait-ce que la fiche de poste, si la fiche de poste est principalement basée sur les compétences, ben on a un sujet parce qu'en fait, ça bouge tout le temps. Alors, faut toujours se méfier. Donc, le token, ça devient un petit peu le fuel de la construction
de
valeur.
Chez Nvidia, parfois, ils leur donnent plus de primes, ils leur donnent des tokens.
C'est vrai, je connaissais pas l'anecdote, mais c'est amusant. Mais c'est vrai que on va pouvoir se poser la question. C'est dans son équipe, on a quelqu'un qui consomme pas de token. On peut se dire qu'il y a un sujet. C'est un petit peu comme si vous étiez le patron d'une société de taxi et que vous avez un chauffeur de taxi. Il est super. Mm-hmm. Il consomme pas d'essence. Bah, finalement, vous dites, est-ce qu'il crée de la valeur? Ouais. Alors, je dis pas que c'est parce qu'il consomme de l'essence qu'il crée de la valeur, mais
Bien comprendre. Ouais. Les risques, c'est quoi? Je sais qu'il y a un risque déjà au niveau des juniors.
Risque là-dessus. Puis l'IA, c'est quand même une technologie qui fait une analyse probabiliste et qui est assez indomptable. Et donc, quelque part, si vous la canalisez pas, si vous l'orientez pas, si vous la laissez faire, si vous ne mettez pas des garde-fous, il y a un risque. Et donc, c'est là où ce que nous, on propose, c'est une technologie qui finalise non pas probabiliste, mais déterministe, et qui va permettre de canaliser et de mettre à disposition de l'IA un certain nombre d'informations structurées pour un peu forcer l'IA à exploiter ces informations dans son modèle opératoire, dans la manière de réfléchir et de proposer. Et ensuite, on va aller contrôler le code qu'elle produit. Mmh. Parce que le code qu'elle produit, il faut vérifier qu'il est bien cohérent d'un point de vue structurel, architectural. Or, l'IA, elle va un peu trop vite. Elle est un peu imprévisible. Oui. Et donc, il y a vraiment ça à faire. Et plus les outils IA deviennent puissants, plus quelque part, les développeurs et les équipes vont baisser leur garde. Oui. Et c'est ça qui est un peu antinomique. Oui. C'est plus l'IA devient forte, et plus il y a de risques. Et c'est là où il faut être capable de la contrôler avec du déterminisme.
Exactement, très intéressant.
Techno-française d'ailleurs.
Techno-française, important.
Je disais, c'est 2024, en gros, on était sur du prompt engineering.
Oui.
2025 sur du context engineering, donc il fallait se méfier. Si on met trop de choses dans l'intelligence artificielle, elle s'y perd, elle pourrit un peu. Donc là, on maîtrise maintenant. Et donc, c'est effectivement, CAS propose maintenant des solutions de type harness engineering, qui sont là, en fait, pour contrôler la manière dont l'IA avance.
C'est ça. Et j'ai oublié, j'en ai parlé ce matin à Rémi au téléphone. Il y a une tribune, d'ailleurs, dans les échos aujourd'hui sur harness technology. Voilà, c'est ça de Sylvain Duranton du BCGX qui en parle.
Et on dit justement, un agent, c'est un LLM. Plus des harnais.
Voilà, c'est exactement ce qu'il dit.
Mais sur la consommation de tokens, je reviens. Oui. Si tu déploies un agent IA, enfin l'IA, auprès de 1000 développeurs et que tu commences à les laisser jouer avec, ta consommation de tokens, elle peut exploser. Mm-hmm. Donc c'est là où il faut à un moment essayer de canaliser et limiter l'IA là où elle apporte une vraie valeur. Et parfois, c'est en utilisant une technologie type déterministe qui va aller chercher de l'info pour empêcher l'IA, quelque part, d'aller la rechercher de manière systématique, qui va faire une consommation de token qui va être totalement hors contrôle.
Juste un dernier mot, je suis un jeune junior développeur, je dois m'inquiéter ou pas? Qu'est-ce que je dois faire pour...
Non, juste parfaitement. Au contraire, il y a vraiment des postes à prendre à partir du moment où la personne a compris qu'il doit devenir un chef d'orchestre, une sorte de software engineer. Et donc, par contre, il faut quand même développer sur les fondamentaux de maîtrise de tout ce qui est de l'architecture logicielle. Il y a quand même un certain nombre de fondamentaux qu'il faut maîtriser. C'est compliqué pour un jeune à acquérir.
Du code et de la partition. Il faut vraiment avoir la symphonie, ce côté chef d'orchestre.
Exactement. Il faut travailler sa compréhension, en fait. L'acte de dire « je produis du code », finalement, maintenant, il n'est plus tellement utile. Il faut travailler le côté systémique et compréhension globale du système.
Et puis un tout dernier mot, Rémi, on le dit, ça va secouer assez sec quand même dans l'ingénierie logicielle. Et ça veut dire, là on a parlé des équipes de développement, de production, mais tout le monde doit y être, à la fois les DSI, on vient d'en parler, mais les DG, les DRH, on en a parlé.
C'est aussi les écoles, on avait échangé avec Epita, qui participe d'ailleurs au think tank, parce que c'est aussi aux écoles, à un moment, de revoir leur cursus de formation pour que les jeunes qui vont arriver... le profil et les compétences et l'expertise pour faire en sorte que les DSI aient envie de les embaucher.
Voilà, ben vous voyez, on est plutôt enthousiaste ici pour ce métier. Alors, encore une fois, on dit métier de développeur, mais il y a tellement de sous-métiers dans tout ça, et Didier le connaît parfaitement. Merci à tous les deux. Didier Girard, CTO et DG de Sphere. C'est une 1000 personnes, Sphere, S-F-E-I-R, voilà, si vous nous écoutez en radio. Et Rémi Jacquet, directeur général France de Cas Software. Merci Rémi, donc au créateur de ce think tank autour des 100 DSI. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site de Cas Software, du CIGREF. Voilà, et vous allez pouvoir
co-animer avec le CIGREF maintenant, voilà, depuis un an.
Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business et retrouvez-nous évidemment sur les replays et les podcasts.
Tech & Co Business sur BFM Business.